C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Roselyne.
Alors, réquisitoire sévère à l'encontre de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, l'ancienne candidate à la présidentielle, risque-t-elle l'inéligibilité? Hier soir, le parquet a requis une peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende et 5 ans pendant lesquels elle pourrait être inéligible. Mais ce n'est pour l'instant qu'un réquisitoire et non un jugement. La députée du Rassemblement national a crié au complot judiciaire et politique, une ritournelle souvent utilisée dans les procès d'hommes ou femmes politiques. L'actualité, c'est également le match France-Israël. Israël ce soir au Stade de France. Emmanuel Macron sera présent et sera entouré de ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et de son Premier ministre, Michel Barnier. Inédit pour un match pas comme les autres, une façon de marquer symboliquement un non ferme à l'antisémitisme. On en parle avec Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Carole Barjon, éditorialiste politique. Bonsoir Carole.
Bonsoir Roselyne.
Et Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction parisienne de Sud-Ouest.
Bienvenue. Ouest-France.
De Ouest-France, ah oui, pardon.
C'est à l'Ouest, c'est presque pareil.
C'est un peu plus au nord.
Et en fin d'émission, Véronique Reiss-Soult nous parlera des nominations de Donald Trump après sa victoire. Voilà, nombreuses sont les réactions politiques après le réquisitoire accablant contre Marine Le Pen. Hier soir, l'ancienne patronne du Rassemblement national qui s'est aussitôt fendue d'une réaction outrée.
Je pense, encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti.
Voilà Marine Le Pen qui parle d'elle à la troisième personne, comme le faisait feu Alain Delon. Donc on la sent plus touchée par l'inéligibilité, Jean-Marie, que par les 5 ans de prison, dont 2 fermes. Elle accuse les juges de s'immiscer dans la vie politique. C'est un refrain assez commun chez les politiques lorsqu'ils sont devant les juges.
C'est même un refrain systématique. Alors il faut toujours rappeler que ce n'est pas un jugement.
Non,
vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont des réquisitions, donc les juges pourront tout à fait s'écarter des réquisitions s'ils le considèrent comme nécessaire ou comme équitable. C'est vrai que vous vous souvenez peut-être, il y a très longtemps, les premières affaires qui concernaient l'argent du Parti socialiste.
Oui.
Les réactions des leaders socialistes étaient celles-là, de crier
l'affaire
au complot.
L'affaire Urbain, non ?
Oui, de crier au complot des juges. C'est une rhétorique permanente et en règle générale aussi, ça s'inscrit dans une vague et une vogue populiste qui consiste à écarter de l'état de droit la justice d'une certaine façon. Et donc de dire, de toute façon, la volonté du peuple doit l'emporter sur les juges. Et donc c'est une façon de remettre en cause l'état de droit. Pour ce qui est de Marine Le Pen, l'ironie, elle est double. Elle est que d'abord, c'est un parti qui a construit sa réputation sous son autorité à elle, sur l'idée que on lave plus blanc, on est plus propre que les autres ce sont les élites corrompues, nous ne sommes pas...
Or, elle est là... Son père disait tête haute, main propre.
Tête haute, main propre,
voilà.
Là, elle est... Vous avez raison de le rappeler, mais là, elle est quand même convaincue de détournement de fonds publics pour le réquisitoire et pour ce qui ressort de cette instance. Donc, c'est quand même lourd.
Oui.
Et personne ne pensait qu'elle échapperait à une condamnation. Donc, le choc, en effet, vous l'avez dit, le choc, c'est le fait de la rendre inéligible. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et là, il y a une ironie aussi, parce que Dieu sait si le Rassemblement national a plaidé avec d'autres partis de la droite, mais principalement chez eux aussi, pour l'automaticité, pour les peines planchées. Et bien là, elle est victime d'une automaticité. À partir du moment où vous avez une condamnation dans ces matières, vous avez automatiquement... Et ça, ce sont des lois qui datent... Il y en a une qui date de 2017 et une autre bien avant... Qui était faite pour renforcer la confiance que les Français peuvent avoir dans les politiques, donc pour être sûr qu'ils soient à la fois transparents, inattaquables, et ainsi de suite. Donc on avait instauré cette automaticité entre une condamnation dans ces domaines et l'inéligibilité.
Oui.
Donc voilà, elle est prise un peu... C'est vraiment l'ironie de l'histoire, comme souvent. Après, elle ne le sera peut-être pas condamnée, parce qu'on ne sait pas ce que feront les juges, parce qu'objectivement, c'est quand même un choc. Et c'est quand même une perspective qui ébranle un petit peu le paysage, l'ensemble du paysage politique français.
Alors, Stéphane, est-ce qu'elle risque cette peine-là d'inéligibilité ? Parce que c'est visiblement ce qui la marque le plus, parce qu'évidemment, elle a en ligne de mire 2027.
Alors moi, pour ce que j'en comprends, si vous voulez, l'inéligibilité, comme l'a très bien dit Jean-Marie Colombani à l'instant, elle est dans la loi, elle est automatique à partir du moment où il y a une condamnation pour détournement de fonds. Donc c'est pas une surprise. Si hier on a assisté à une scène un peu type stupeur et tremblement et le fait que tout le monde est tombé de l'armoire, c'est qu'on s'attendait à ce que les réquisitions soient lourdes. Mais la nouveauté, si vous voulez, et on s'attendait donc à un réquisitoire avec des peines de prison, une peine de prison et une inéligibilité puisque c'est prévu, c'est automatique. La grosse surprise, c'est le côté exécutoire qui a été demandé par le procureur de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dit qu'en cas de condamnation, lui, ce qu'il demande, et ce n'est pas forcément ce que fera le tribunal, mais ce qu'il demande...
Avant même qu'elle ne fasse appel, ça sera exécutoire
et en réalité, pourquoi est-ce que je parle de stupeur et tremblement ? C'est que je pense que et les avocats de Marine Le Pen, du parti et de l'ensemble des prévenus se disaient que, de toute façon, même en cas de condamnation, même en cas de condamnation, par le jeu des procédures habituelles en appel et en cassation, si la peine d'inéligibilité est jugée suspensive, enfin si l'appel est suspensif, pardon, à ce moment-là, il y avait moyen de faire traîner la procédure, entre guillemets, et d'outrepasser la date fatidique de 2027 et la présidentielle. Et donc si le tribunal suivait les réquisitions du procureur, eh ben, ce qui se passe, c'est que la peine d'inéligibilité, elle serait automatique à partir du moment où la condamnation serait prononcée, et ça n'est pas l'appel ou donc c'est-à-dire qu'elle serait déclarée inéligible avant que la condamnation soit définitive, et ça veut dire qu'effectivement, elle pourrait pas se présenter à la présidentielle 2027, et ça, honnêtement, je pense qu'elle s'y attendait pas du tout.
Catherine, elle accuse visiblement dans sa réaction, hein, une fois de plus, les juges de, enfin le procureur, le parquet, de s'immiscer dans la vie politique. Est-ce que c'est une critique entendable ?
Non, en aucune façon, puisque c'est prévu, comme vous venez de le rappeler l'un et l'autre, c'est prévu par la loi qui a été votée en décembre 2016. C'est la loi Sapin 2, et en fait, la seule façon qu'elle aurait de ne pas être inéligible, c'est que le tribunal prenne une décision spéciale pour elle. Ce qui est possible, hein, c'est-à-dire que le juge peut décider que, parce que c'est Marine Le Pen, on ne va pas appliquer cette décision. Mais c'est une décision qui doit être motivée et exceptionnelle. C'est-à-dire que ce serait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se sauverait que parce qu'elle ne serait pas dans le droit commun général. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y aurait une... Et je trouve bien compliqué d'argumenter de manière juridique et pas politique le fait qu'elle n'exécute pas sa peine.
Ce serait un privilège de Marine Le Pen d'être présidente du Rassemblement.
Et donc ça me paraît quand même assez compliqué à argumenter. Ce qu'a révélé... moi, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un article du Monde de vendredi soir de la semaine dernière qui l'a révélé. Et je ne sais pas pourquoi, personne n'est tombé de l'armoire, mais on a l'impression qu'on vient de le découvrir, alors qu'en fait, le papier du Monde était très, très clair. C'est sauf justification spéciale du juge, elle sera inéligible si elle est condamnée. Et il fait assez peu de doute qu'elle sera condamnée compte tenu du caractère fantaisiste et des arguments qui ont été développés par les prévenus.
Alors Carole,
ce que je veux dire, c'est que ce ne serait pas exceptionnel pour Marine Le Pen. La loi Sapin prévoit qu'effectivement, dans le cas où les réquisitions ont été, d'une peine d'inéligibilité exécutable, c'est quoi le
exécutoire immédiatement.
Voilà. Mmh. Mais non, il y a une formule spéciale. Mais bref, le tribunal n'est pas tenu de reprendre ses réquisitions telles que, mais effectivement doit faire une motivation et spécialement motivée.
C'est ça. Il doit argumenter.
Donc, c'est prévu pour la loi, pour n'importe qui.
Oui, bien sûr,
Mais pas seulement pour Marine Le Pen.
Mais il faudrait le motiver. Je veux dire, il faudrait trouver un argument très particulier. Il faudrait trouver l'argument qui fait que on ne l'appliquerait pas dans ce cas. Alors qu'on rappelle que c'est plus de 5 millions de détournements de fonds publics qui sont reprochés à Marine Le Pen, qui était et président du parti et députée européenne.
Mais d'ailleurs elle ne, comment dire, c'est ce qui est absolument paradoxal dans cette histoire, c'est qu'elle crie évidemment au procès politique et en même temps, elle avait demandé à rembourser les sommes auparavant, ce qui veut clairement dire que oui, elle avait sans doute quelque chose à se reprocher. Maintenant, moi je trouve, mais ça dépasse le cas de Madame Le Pen, c'est vrai que je trouve que cette loi Sapin pose un petit problème quand même sur l'appel. Parce que en général, l'appel est suspensif.
Oui, oui.
C'est-à-dire que...
Oui, mais ça, c'est la logique des peines planchers aussi. Ce sont des revendications constantes de l'extrême droite, d'aller
vers... Non, mais là, je parle de la loi Sapin.
Oui, mais bien sûr, mais la loi Sapin, elle illustre ce qui est une revendication. Quand on dit attention aux libertés...
Peut-être rappeler la loi Sapin, Jean-Marie.
C'est une loi qui, au point de départ, est plutôt destinée à... rendre plus transparentes les relations entre les, notamment entre les annonceurs et ça concerne d'ailleurs beaucoup la presse, la loi Sapin, je me souviens bien.
Moi je me souviens plus, mais c'était la
En tout cas, c'est une loi qui était faite pour organiser la transparence et garantir que cette transparence soit respectée et que les sanctions soient présentes.
Oui.
Vis-à-vis d'une classe politique qui est réputée ne pas respecter la loi et s'enrichir ici ou là. Donc c'est ça l'économie du système.
Voilà, c'était une loi sur la moralisation et la confiance dans la vie publique.
Mais comme la loi qui lui succède en 2017. C'est le même motif.
Si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter en 2027, de toute façon, elle a son airbag qui s'appelle Jordan Bardella, qui est dans les starting blocks. Alors il a fait un tweet, sa réaction sur X. Le parquet n'est pas dans la justice, il est dans l'acharnement et la vengeance à l'égard de Marine Le Pen. Ces réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C'est une atteinte à la démocratie. Pourtant, une inéligibilité ferait de lui, Stéphane, le seul candidat, le seul leader du Rassemblement National. Donc peut-être que, comme dirait Emmanuel Macron, in petto, il l'espère.
Oui, mais bon, alors il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je pense qu'il y a une vraie fidélité de Jordan Bardella vis-à-vis de Marine Le Pen, et donc.
Oui, mais jusqu'où
Donc, je pense qu'il est assez sincère dans ce type de déclaration. Après, bon, peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'il y ait de calcul. Non, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que le discours a changé. C'est-à-dire qu'au départ, le Rassemblement National se défend en disant, mais nous, on estime qu'en fait un assistant parlementaire peut tout à fait être aussi un militant du parti et donc on n'a pas détourné d'argent ou en tout cas on n'avait pas conscience d'eux, on n'a pas fait exprès, on ne savait pas, etc. Et là, depuis le réquisitoire d'hier, le discours a radicalement changé. C'est-à-dire que là, à travers ce tweet, ce qu'on voit, c'est que c'est la musique du « c'est un procès politique ». Ouais. C'est un acharnement, c'est le gouvernement des juges, etc. Or, il se trouve que les juges, le parquet en la matière, l'ensemble de la justice, pour le coup, est réellement indépendante et qu'elle ne fait qu'appliquer la loi. Voilà. Mmh. Et le problème, c'est que ce discours-là, qui est très trumpiste quelque part, Le problème, c'est qu'il fonctionne, c'est qu'il a de fortes chances de fonctionner. Et là, pour le coup, ça, c'est pas bon pour la démocratie, parce qu'en réalité, Marine Le Pen, si elle est condamnée, elle est condamnée. Enfin, la justice fera bien ce qu'elle voudra. Encore une fois, elle est indépendante et elle jugera en vertu des lois et en son âme et conscience, d'accord. Donc on verra, on aura le rendu qu'au printemps prochain. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a le cas de Marine Le Pen en tant que citoyenne française justiciable et qui doit répondre de ses faits et gestes, etc., de ses actes devant un tribunal populaire, dont acte. Mais ça n'empêche, quelle que soit la décision, de toute façon, ça n'empêchera pas le Rassemblement National d'avoir un candidat en 2027. Oui. Et de continuer à briguer des postes et à faire valoir ses
idées. En fait, dans cette affaire, d'abord, il faut rappeler que François Bayrou a été condamné pour les mêmes problèmes. Sauf que François Bayrou n'était pas directement impliqué parce qu'il n'était pas député européen. Marine Le Pen est directement impliquée parce qu'elle était députée européenne, puisque c'est elle qui donnait les instructions.
François Bayrou n'a pas été condamné, il a été relaxé au bénéfice du doute.
Oui, mais son parti a été condamné. Son parti, pour les mêmes motifs.
Mais cela a quand même bloqué
François Bayrou au développement ultérieur, puisqu'il a dû démissionner de son poste de garde des Sceaux et il était bloqué ensuite. Mais surtout, c'est un choc des cultures, parce que la culture du Parlement européen, c'est une culture commune qui emprunte beaucoup à la rigueur de nos partenaires et amis du nord de l'Europe. Alors que la France prétend que, de toute façon, s'agissant de la vie politique, on ne peut pas séparer les choses et dire « je nomme un tel attaché parlementaire, mais il ne va jamais au Parlement européen parce que, de toute façon, il fait de la politique ». Et ça, c'est une vision française communément partagée. Donc, il y a un vrai problème culturel là. Et donc, Marine Le Pen, je pense que les élus du RN ont été surpris, comme ceux du Modem de François Bayrou, ont été surpris de cette législation, parce que dans leur façon de faire de la politique, ils ne considèrent pas qu'il y ait une barrière comme ça qui fasse de 8h à 10h vous faites assemblée assistant parlementaire et de midi à 14h vous
faites
de la politique.
Mais Jean-Marie, c'est aussi parce que le statut des assistants parlementaires n'est pas précisément défini. Il y a un vrai sujet là-dessus.
Oui.
Et bien sûr.
Le statut des assistants parlementaires européens est beaucoup mieux défini que
celui de la France.
J'allais vous dire, autant que je sache, par exemple, Fabien Roussel est inquiété pour cette question-là, parce qu'il était attaché d'un député européen du Nord, d'un député français du Nord, et on lui fait reproche de ne pas avoir été réellement, effectivement, un attaché, et plutôt secrétaire fédéral du Nord. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette question de la véracité de l'emploi, là, en l'occurrence, pour Fabien Roussel, il n'est pas question d'emploi, de famille, de complaisance, etc., mais le fait qu'il était attaché d'un député et qu'il faisait autre chose, il faisait de la politique pour le Parti communiste. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai qu'en France, on peut... Ça ne se fait plus trop. Mais moi, surtout, ce que je voulais dire, c'est que si ce n'était pas Marine Le Pen, moi, je pense que c'est vraiment un coup de théâtre phénoménal. Parce que
pour 2027.
Certes, Jordan Bardella.
Vous voulez dire si elle ne pouvait pas se présenter.
Ce que je veux dire, c'est que il y a le débat sur.
Non, mais il est installé, Bardella.
Ah ben, il est peut-être.
Il est jeune.
Oui, mais il est installé, mais il n'est pas présidentiable. Je veux dire, il a même pas réussi
à
passer la.
Mais il a raté sa campagne
législative. Il n'a pas réussi à être premier ministre. D'abord, il y a un problème de ligne. C'est quelle ligne, la ligne politique que propose Jordan Bardella n'est pas tout
l'union
à fait. L'union des droites
qui n'est pas la ligne de Marine Le Pen.
Exactement. Donc, est-ce que ça gagne cette ligne-là ou pas? Ça, c'est un premier débat. D'après Ciotti, ça gagne, mais c'est pas sûr que Ciotti ait raison. Ouais. Et deuxième élément, c'est est-ce que Jordan Bardella, qui est un jeune homme plein d'expérience, qui a 29 ans, qui n'a jamais rien fait d'autre que de faire de la politique
pour partir. Toute petite chose. Je vais au meeting du Rassemblement National, etc. C'est ce que disent les militants. C'est-à-dire à l'applaudimètre, parmi les militants du Rassemblement National, les électeurs, les sympathisants du Rassemblement National, Jordan Bardella a une cote extraordinaire. C'est-à-dire,
l'applaudimètre, c'est lui qui gagne.
Sauf que eux-mêmes disent, Jordan est formidable, etc. Mais pour la présidentielle, il nous faut Marine, entre guillemets, parce qu'elle a l'expérience, il n'est pas prêt. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je rejoins Catherine ça changerait tout, effectivement, et y compris dans le regard et l'approche de l'électorat même du RN.
Et il est moins fédérateur qu'elle.
Voilà. Il est moins fédérateur, il est moins expérimenté, et ça réouvre le jeu. Mais les jeunes votent moins, donc c'est pas eux qui votent, voire pas. Il a des atouts. Il ne ferait pas une catastrophe.
Il s'appelle pas Le Pen.
C'est vrai, et il s'appelle Jordan, c'en est un deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une déflagration pour le Rassemblement National, mais c'est une déflagration pour l'ensemble du champ politique. C'est toute la gauche, toute la France politique qui en serait bouleversée, parce que tout le monde pense que Marine Le Pen est au second tour et que donc l'enjeu, c'est de se qualifier face à elle. Si elle n'y est pas, eh ben c'est toute la carte politique serait ouvrée.
Bien sûr, oui.
Carole.
Je voulais juste ajouter que On a pas mal vu l'image, là, depuis hier, qui juxtapose l'image de Marine Le Pen en pleurs et celle de Jordan Bardella en train de signer dédicaces pour la vente de son livre. Bon, en sous-entendant que, peut-être, au fond... Il est très content de pas être mêlé et de pas être vu comme ça à la sortie du tribunal. Mais on ne sait pas si, par exemple, ça n'a pas été prévu. Organisé entre les deux.
Bardella depuis...
Parce que peut-être que Marine Le Pen ou certains au Rassemblement National ont lu ce fameux papier du Monde dont parlait Catherine tout à l'heure et que peut-être qu'ils savaient que les réquisitions allaient... Au fil du temps, on a quand même bien vu que ça tournait pas bien pour Marine Le Pen. Oui. Parce que d'abord, elle a voulu se défendre seule, ce qui est peut-être une erreur. Elle a pas pris d'avocat. Elle s'est défendue elle-même puisqu'elle est avocate et elle a plaidé, elle a fait une défense purement politique, ce qui a évidemment exaspéré les juges en face d'elle. Donc petit à petit, on a vu que ça ne marchait pas du tout. Au-delà des faits. Eux-mêmes, qui sont déjà suffisamment.
C'est une constante, ça. Moi, ça me rappelle Henri-Emmanuel Lippé à ses cendres, mais qui avait été comme ça face à des magistrats, qui avait pris le parti d'une défense politique, et donc qui avait cherché à échapper à l'argumentaire des. Et les juges, du coup, avaient été beaucoup plus durs qu'ils ne l'auraient été s'il y avait eu une vraie bataille.
C'est un peu indéfendable. Hein. Je veux dire, si vous avez écouté, moi j'ai un peu suivi ce que la presse en a relaté, franchement, c'était grotesque, quoi. Il n'y avait pas d'argument. Elle ne pouvait, en dehors de plaider...
Sauf la culture différente. Nous sommes d'une culture où on peut dire, encore une fois, le matin, on est assistant parlementaire, l'après-midi, on est autre chose.
C'était à peu près l'argument politique qu'elle a défendu.
Je voudrais quand même vous soumettre un tweet assez étonnant de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a réagi à ce réquisitoire. Il écrit « Il serait choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Marine Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être qu'électoralement, sans l'expression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité des concitoyens. » Stéphane, curieuse réaction qui laisserait entendre que la justice, effectivement, n'est pas indépendante, et puis on a envie de se dire de quoi je me mêle.
Non, et puis, la dimension, il faut que la décision vienne du peuple, mais encore une fois, les juges ne font qu'appliquer une loi qui a été prise par des députés qui étaient quasi unanimes sur les dispositions de la loi Sapin, il faut quand même le rappeler, tout bord politique. Tout le monde trouvait ça formidable au départ. Et je vous rappelle que les députés, ils sont élus pour, ce sont les représentants du peuple. Donc là, on est loin d'être hors les clous par rapport au champ démocratique habituel. Je comprends son argument politique sur le côté il faut l'abattre dans les urnes, il n'est pas le seul à dire ça, mais...
Mais la justice ne veut pas abattre, c'est surtout les juges qui sont ciblés là. Ne veulent pas abattre Marine Le Pen, les juges ils font appliquer la loi, c'est tout.
Tout simplement, et le problème c'est que ça vient d'un ancien ministre de l'Intérieur qui est resté quand même 4 ans... en poste, peut-être qu'il a besoin qu'on se rappelle qu'il est encore là, je ne sais pas.
Qui n'a pas renoncé à être candidat à la présidentielle, peut-être pas la prochaine fois, mais en tout cas, l'avenir, et qui, depuis le début, on le sait parfaitement, cherche, son objectif, c'est de récupérer, d'essayer en tout cas de récupérer les électeurs des catégories populaires qui sont partis chez Marine Le Pen. Donc, moi, je pense que ça aussi, sa déclaration, elle a aussi un rapport avec ça.
Bon. Autre réaction d'un tout autre ton, évidemment, c'est celui de Xavier Bertrand, qui a affronté Marine Le Pen sur les terres du Nord. Et écoutez sa réaction.
Et puis qu'on arrête avec le déni de démocratie que le Front National ne serait pas capable de présenter un candidat. Ils ont un candidat de rechange, il s'appelle Bardella, qui n'attend que cela. J'ai vu hier son tweet avec sa déclaration. Tout ça, c'est effectivement un grand numéro d'hypocrisie. Et puis vous savez qui a dit... Il y en a marre de ces élus qui détournent de l'argent, ça c'est au tribunal de le décider, mais qui a dit cette phrase ? Marine Le Pen, 2004, le procès d'Alain Juppé, une peine d'inéligibilité, il était candidat possible à la présidentielle.
Voilà, CQFD.
Rappel historique utile.
Oui, ça fait mal, ça.
Il y a un paquet d'archives qui tournent et qui piquent, là, en ce moment, sur Marine Le Pen, sur ses déclarations, sur le fait que le Front National n'a jamais été condamné, etc. Non, mais, donc, effectivement, ouais, ça la fait mal.
Je voudrais qu'on passe, puisqu'il nous reste peu de temps avant la chronique de Véronique Reissoul, sur ce match ce soir entre France et Israël. Donc, 4000 forces de l'ordre déployées ce soir pour... Dans ce match, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Michel Barnier seront au Stade de France. La France insoumise avait demandé l'annulation du match. On écoute le député David Guéraud.
Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Qu'allez-vous faire dans ce stade ? Et pourquoi n'interdisez-vous pas ce match ?
Voilà, Catherine, est-ce qu'il fallait interdire, selon vous, ce match ? On voit qu'Elefi fait une manifestation, visiblement, ce soir, pro-palestinienne. Est-ce que la gauche radicale envoie un signal, là encore, à l'électorat issu de l'immigration ?
Non, moi, je crois que ce n'est pas exactement ça le sujet. C'est que l'Elefi cherche toutes les occasions de reparler de ce qui se passe à Gaza, et ils ont raison de chercher à en parler. Je pense qu'ils choisissent là de faire une affaire autour du match. Ce n'est pas, à mon avis, un bon combat. Ce match doit avoir lieu et je trouve ça bien que les autorités rassemblées de la République française soient présentes ce soir-là. Mais ce que je pense aussi, c'est que les autorités de la République feraient bien de raccommoder un peu le peuple de France en ayant une position claire et nette sur ce qu'il doit se faire au Proche-Orient, c'est-à-dire trouver une solution de paix avec deux États viables, et reconnaître l'État palestinien. Et le jour où on fera ça, je pense que la pression va descendre à l'intérieur de la France. Je ne dis pas que ça va faire baisser la pression sur place, parce que je ne suis pas sûre que ça suffise. Mais par contre, je trouve que le fait que la France n'ait pas une voix constante, claire et nette, met de la tension dans le pays.
France a eu une voix constante, claire et nette sur ce sujet, par la voix d'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises. Le mot de barbarie a été prononcé par le président de la République quand il a défini la position de la France pour expliquer que, depuis François Mitterrand d'ailleurs, c'est la position de la France.
Ça n'a pas été constant.
La France plaide pour deux États. Bien sûr que si, ça n'a pas été constant. Et en revanche, sur le match, il est utile et indispensable qu'il y ait des manifestations visibles de dénonciation de l'antisémitisme. Manifestation pour l'antisémitisme que Emmanuel Macron avait boycotté la première fois. Et donc, il est utile qu'il prenne ce train. Je vous recommande l'hebdomadaire Le Point de cette semaine, un récit d'un écrivain qui s'appelle Omar Souleyman, qui a écrit « Être français » chez Flammarion, et qui raconte ses rencontres avec de jeunes lycéens dans les banlieues à tendance, disons, islamiste ou tentation islamiste, et où les jeunes élèves de 15 ans, 16 ans, avec qui ils discutent, et avec qui il parle peut-être justement d'une logique des deux États, ils lui disent « Mais Israël n'existe pas. Israël doit être rayé de la carte. » Il y a une imprégnation du discours tel qu'on l'a entendu du député LFI, à savoir « c'est un génocide » et ainsi de suite, qui fait qu'il y a une coupure qui est en train de s'installer dramatique. Et il faut rappeler que les actes antisémites ont été multipliés par 4 en France. Depuis quand ? Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis le pogrom du 7 octobre. Donc il y a vraiment urgence à manifester fortement et à tenir bon sur ce... et donc à renseigner, à rappeler ce que sont les attentats, parce que les gens ne l'enseignent pas, et à dire pourquoi il faut distinguer l'antisémitisme de la critique que l'on peut porter au gouvernement Netanyahou et à son extrême droite qui plaide pour l'annexion de la Cisjordanie, extrême droite qui dit exactement la même chose que ceux qui veulent rien entre la rivière et la mer. Donc c'est vraiment vital pour nous d'instruire la nécessité de l'antisémitisme et de bien la distinguer de la critique que l'on peut et doit porter contre le gouvernement actuel d'Israël, qui sera un jour ou l'autre condamné pour crime de guerre. Ça devient assez évident.
Carole, est-ce que Emmanuel Macron se rattrape après avoir refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme au lendemain du 7 octobre, il y a un an ?
Oui, on entend beaucoup ça, mais moi je n'étais pas absolument certaine qu'il devait participer à la marche contre l'antisémitisme initiée, on s'en souvient, par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Il aurait pu peut-être aller les saluer au début, etc. Mais je n'étais pas absolument persuadée qu'il devait y être. Donc, bon, pour ceux qui étaient persuadés qu'il aurait dû y être, bien entendu, que ça sonne comme un rattrapage. L'important, moi, je pense, que c'est qu'il y soit ce soir, qu'il y soit aussi avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, avec Michel Barnier, que ce match n'ait pas été annulé comme le demandait la France Insoumise ou reporté, etc. Donc, c'est quand même un message assez fort qui est envoyé.
Oui, et ça,
je trouve que c'est très bien qu'il y soit.
Stéphane, votre avis là-dessus ?
Écoutez, moi, je pense qu'il est impensable d'annuler un match une compétition sportive. Je n'aurais pas compris, sauf à décider que.
Ou à le délocaliser.
Sauf à décider que Israël serait infréquentable et qu'on boycotte le pays pour toutes les manifestations sportives, comme on a pu le faire avec la Russie, par exemple. Donc voilà, c'est pas le cas. Donc il est hors de question d'annuler ce match de football. C'est très bien qu'il ait lieu. Mais comme il est fondamental que des opposants à ce qui se passe, des gens qui veulent alerter sur ce qui se passe en Palestine et à Gaza, puissent manifester leur désapprobation et puissent le faire publiquement. Moi, je trouve que ça, c'est aussi fondamental. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir ce type de manifestation sans débordement ? Et là, le tout débordement, que ce soit des propos, des actes de nature antisémite, comme on a pu le voir à Amsterdam, des violences, etc. Je pense que ça n'est pas possible. Et le problème, c'est qu'on sait tous très bien qu'il y a de très fortes chances que les choses dégénèrent.
C'est un peu toujours le cas, là, depuis quelques temps.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, justement. Je partage totalement ce que vous venez de dire. Et par exemple, quand Yael Braun-Pivet est allé à Lyon 3, il y avait 200 étudiants qui manifestaient et on a trouvé scandaleux qu'il y ait des graffitis avec marqué Free Palestine. Non, je regrette, ce n'est pas antisémite et ce n'est pas scandaleux. Le ministre, mais il y avait pas de violence. Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur a déposé une plainte auprès de la justice à cause de cette manifestation. Ça, ce n'est pas possible. Non. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec la menue Yael Braun-Pivet et on peut même dire qu'il faut que la Palestine soit libre. C'est pas grave. Et c'est pas antisémite.
Une réaction, Carole ?
Vous êtes oui, moi je suis entièrement d'accord.
Moi aussi.
Je pense qu'on mélange un peu tout le temps et trop souvent ces temps-ci sur tous ces sujets-là. Parce que, effectivement, moi je vois pas en quoi dire qu'on doit apporter son soutien aux Palestiniens ou qu'on milite pour deux États. C'est immédiatement antisémite. En revanche, ce qui est vrai, c'est que certains ont des manières de défendre la Palestine de manière malheureusement un peu trop souvent ces temps-ci.
Non, mais ce qu'il y a derrière souvent ce mot d'ordre, c'est de supprimer Israël.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est clair, clair et net dans les déclarations de ceux qui portent ce genre de slogan, c'est supprimer Israël.
Ça arrive
trop souvent. C'est ce qu'a aperçu dans les lycées et les collèges où il est allé l'écrivain dont je vous parlais.
Oui, c'est pour ça que moi, c'est ça, le drame. Mais je suis d'accord, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que les autorités de la République française reconstituent le consensus qui était le nôtre. La France
et la
position de la France était Israël et Palestine, deux États sûrs.
Et je trouve que
on ne peut pas dire que ça a toujours été. Quand on interdit, quand on porte plainte parce qu'il y a une manifestation qui dit Free Palestine et qu'on l'accuse d'antisémitisme.
On voulait empêcher la présidente de parler.
Mais est-ce que, juste dernière question, est-ce qu'il faudrait que l'éducation nationale se saisisse du sujet et rappelle dans ses cours aux lycéens la position française, c'est-à-dire de deux États ?
Bien sûr.
Non. Moi, je ne suis pas d'accord.
D'accord.
Je pense que l'important, ce sont les cours d'histoire. Et du coup, de traiter ce problème qui est quand même maintenant récurrent, ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que les professeurs d'histoire géo disent qu'ils ne peuvent même plus enseigner la Shoah dans certains quartiers, etc. C'est ça le vrai sujet, plutôt que de faire un cours de géopolitique à l'école, ça franchement non.
Merci. On accueille Véronique Reissoult pour la politique sur les réseaux. On va parler de Trump. Bonjour ma chère Véronique.
Bonjour.
Donc on a vu il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je ne sais plus, Donald Trump faire sa passation.
Enfin, mais oui.
Passation, pas vraiment enfin, passation, enfin.
Un petit échange devant un feu de cheminée.
Voilà, avec Joe Biden. Et il a commencé à annoncer la composition de son gouvernement. Qu'en a retenu l'opinion ?
Alors écoutez, l'échange entre M. Biden et M. Trump devant ce magnifique feu de cheminée a produit à peu près 150 000 messages. Donc globalement, chaque côté se congratulait et considérait qu'il avait été très bien et donc un satisfecit de chaque côté. Donc 150 000 messages aux États-Unis, autant vous dire, c'est pas énorme. Donc c'est-à-dire que globalement, tout le monde dit, bon bah super, c'est un événement. En revanche, il y a un sujet qui a plus que mobilisé, c'est ces fameuses nominations. Et dans les nominations, il y en a un qui a eu la palme. 700 000 messages en une heure, c'est Monsieur Musk. Et donc, il a publié son magnifique communiqué de presse. Alors, comme c'est un peu petit, je vous fais juste un tout petit truc. C'est mon côté Annie Pujol. Hop.
The great
Elon Musk. Et donc ça a plutôt fait rire parce qu'en fait il se l'est posé. Donc désormais c'est son titre, c'est The Great Elon Musk. Et donc il est
Elon Musk qui parle de lui-même en disant The Great Elon Musk.
Et du coup ça a été mis dans l'ensemble du communiqué de presse. The Great One. Et donc globalement ça a plutôt amusé, on va dire. Et puis son statut aussi a interpellé parce qu'en fait il n'est pas ministre, il est conseiller pour un an. Donc c'est un chargé de mission et il a un an pour faire des miracles. Alors les uns et les autres ont rappelé comment il fait des miracles. Donc je vous montre cette magnifique capture qui est animée normalement, mais je voulais épargner. C'est pour rappeler que c'est une méthode de management. En gros, cette scène, si vous allez la voir, elle est animée. Je vous en ai pris une où il y a déjà une case qui s'est éteinte. C'est quoi ? C'est quand il était en train de licencier les gens chez Twitter. C'était en direct. Il parlait aux gens, il leur posait une question. En fonction de la réponse, c'était « Oh, ta case, elle est effacée ». Et tu es viré. Figurez-vous que là, tout devenait noir au fur et à mesure.
Oui, c'est le jeu qui a rendu célèbre Donald Trump. Exactement. À la télévision, The Apprentice.
Et ben voilà, il a fait la même chose.
Vous êtes viré.
Vous êtes viré, sauf que là, les gens, ils étaient vraiment virés. Et au fur et à mesure, là, sur cet écran, tout devenait noir. Donc, ils ont rappelé en disant, bah ouais, il va utiliser ses méthodes. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de parodies aussi, parce que les gens ne sont pas forcément très contents. Dans les parodies, il y a Monsieur Stephen King que vous connaissez tous, qui l'avait traité de Monsieur First Lady. Donc autant dire que, pour vous dire qu'il y a quelques petites parodies qui circulent pour le ridiculiser en disant Elon Musk serait-il la First Lady de Monsieur Trump ? Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire un rapide, en quelques secondes, tour d'horizon de comment Monsieur Musk est vécu là-bas. Mais figurez-vous qu'en France, les politiques français ont trouvé cette nouvelle formidable. Alors on a par exemple Madame Pécresse qui a repris The Great. Et qui dit, le communiqué avec The Great, qui dit « Comité de la hache, anti-bureaucratique, j'en ai rêvé, M. Musk va le faire ». Ouais, formidable. Et il y a M. Ciotti aussi qui a repris, alors je ne vous l'ai pas remis, mais en gros lui dit « Des deux côtés de l'Atlantique, un vent de liberté va souffler ». Formidable. Donc tout ça se passe très bien. Alors ça, c'est à droite. À gauche, ont-ils réagi ? Alors ils ont réagi, mais pas tout à fait de la même façon. Je vous ai fait un petit mix des deux. Qui y a Monsieur Faure qui a dit…
Du PS.
Membre du PS, qui a réagi au tweet que Monsieur Guillaume Kasparian, qui est donc le ministre de la fonction publique en France, avait fait pour féliciter M. Musk et dire « Mais quel bonheur, on va pouvoir échanger nos best practices, n'est-ce pas ?» Donc voilà, donc en gros, partageons nos bonnes pratiques. Donc M. Faure a réagi en disant qu'il pensait que le Trumpisme en France se limitait à l'extrême droite et que finalement, il se trompait et a donc interpellé M. Kasparian. Donc voilà, ça c'est en France. Je vous la fais courte, mini polémique. Là aussi, ça n'a pas mobilisé les foules, mais c'est intéressant de voir comment. Peut-être rêvait-il que Musk les retweete à son tour et qu'ils aient une notoriété mondiale. Mais figurez-vous que cette approche…
En plus, il l'a fait en anglais.
Oui.
Guillaume Kasparian.
Il parle à Musk qui ne parle pas des masses français. et dites-vous que cette petite musique en Europe, il n'y a pas eu qu'en France. En Angleterre, je vous en ai fait un magnifique portrait de Monsieur… de M. Musk, et où les Anglais disent « Mais oui, nous aussi, il nous faudrait un Elon Musk, n'est-ce pas ?» Donc on voit qu'il n'y a pas que les Français qui se réjouissent de cette merveilleuse intervention et de ce poste assez étonnant.
Mais il lui manque la tronçonneuse, comme le Brésilien, là.
J'ai voulu faire court, mais si vous saviez même le truc qu'il y a, on ne peut pas imaginer ta truc, mais oui.
C'est l'Argentine.
En fait,
je me suis trompée, pardon.
Il y a trois nominations qui posent problème.
L'Argentine.
Il y a trois nominations qui posent problème. C'est le premier, c'est le garde des Sceaux, le ministre de la Justice.
vu que là, dans deux secondes, on va rendre l'antenne, je me suis dit, je brouille. Donc voilà, donc là, par exemple, si vous me parlez, je ne ferai pas la fin. Bon. Mais comme vous voulez.
Alors faites la fin.
Alors la fin, justement, c'est la relève qui est assurée par la jeune génération, oui, tant politiquement qu'en termes d'influenceurs.
Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce qu'il y a effectivement moult à dire sur le gouvernement. Donc si vous voulez, on pourra revenir dessus. Hors antenne et la semaine prochaine. Mais je voulais vous montrer que les jeunes, parce que vous avez tous parlé de M. Bardella et vous avez expliqué 29 ans, sera-t-il le suivant et cette jeune génération qui monte bien. Là, c'est donc Donald Trump Jr., 7,6 millions de followers. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il participe à cette galaxie Trump et la jeunesse monte. Alors lui, bon, bah, comme il est jeune, il parle avec des codes de jeunes. Donc voilà ce qu'il a. Il a publié à ses fameux followers sur son compte. Alors... je vous la fais courte. En gros, c'est la photo de Zelensky et qui lui dit « Man, tu as donc 38 jours avant qu'on te retire ton argent de poche. » Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on communique quand on est jeune. On a des petites blagounettes et ça passe très bien. voilà. Bon, j'avais envie de vous déprimer un petit peu. Là, je crois que je suis en train de faire du bon boulot. Alors, je vous rajoute la suite. Je vous mets là, toujours chez les jeunes. Vous avez la petite fille de M. Trump, dont vous avez entendu parler. 17 ans, elle. Hein. Alors, 17 ans, elle a humanisé son grand-père. C'est une prodige du golf. Elle est zéro. Elle a des milliers de followers. Et ses vidéos, donc elle fait des vlogs, ses vidéos comme celle-ci. Et cette photo, vous voyez, 2,4 millions de vues. Enfin, voilà, c'est une façon de faire passer des messages. Et on n'aura pas le temps, mais en gros, je voulais vous dire que cette mode des jeunes, il n'y a pas qu'en France avec 29 ans, il n'y a pas qu'aux États-Unis avec 17 ans. Vous avez même la polémique qui est le début de ce dont vous parliez quand je suis arrivée, qui est la fameuse chasse aux Juifs qu'il y a eu en Hollande, après le match de l'Ajax, avait été relayé par un jeune homme. Alors, on va juste voir la capture d'écran. Je voulais vous montrer la vidéo, on n'aura pas le temps. En soi, il faudrait l'entendre, vite fait. Ah, mais c'est un gamin. Voilà. Ouais. Regardez, écoutez.
Achter mij is de wedstrijd nog volop aan de gang. Tel Aviv krijgt een pakje slaag. Maar bien, toch doet dat de sfeer niet echt goed.
Ce jeune homme, il parle comme un pro. Il a 13 ans. Bonnet, voix fluette, tout ça. Mais en fait, il parle comme un pro. C'est lui qui a partagé sur TikTok ses vidéos. 1,3 million de vues en 3 jours. Et donc, son point de vue a été relayé plus que les médias. Plus sérieusement, et les trois quarts des commentaires en France se sont basés sur cette vidéo. Voilà.
Merci. Alors, on ne parle pas le hollandais. Donc,
J'aurais eu le temps de vous raconter ce qu'il a dit, mais en gros, c'est assez détaillé. Mais voilà,
On se fait discuter dans l'oreillette. Merci, Véronique. Merci à tous. Merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.
En fait, le gamin,
Hyundai Kona, essence hybride ou électrique, vivons sans limite.
Avec le Drive Friday Hyundai, profitez d'offres exceptionnelles sur la gamme Kona, à partir de 199 euros par mois.
Vous n'êtes pas le bienvenu, par ici non plus. Et là aussi, c'est fermé et c'est bien gardé. Vous êtes cerné, faut laisser tomber. Secteur Alarme vous a flashé.
On est protégé, quelle tranquillité.
Et aux voleurs, on dit ciao, ciao, ciao. Secteur Alarme agit aussitôt, en moins de 20 secondes chrono.
Installation en moins de 24 heures sur sectoralarme.fr.